Tout un monde.
Marie-Hélène Fraxé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, deuxième émission consacrée au siècle d'or de l'Afrique autour de l'exposition L'Afrique des routes qui est présentée en ce moment au musée du Quai Branly. Donc deuxième volet, les routes du livre et de la foi. Nous sommes en compagnie de Gaël Beaujean, co-commissaire de l'exposition, et de l'historien Jean-Louis Triot.
بخبار ولا منطمني على الأهل وناسي لا من جاني من البلاد وجاب أخبار لا منطمني
Vu d'Europe, l'Afrique est longtemps apparue comme un continent fermé sur lui-même. Ses forêts et ses déserts de l'intérieur restaient mystérieux et comme inscrits dans une sorte d'éternité sans histoire. L'exposition L'Afrique des routes nous permet de comprendre les flux constants d'hommes et de marchandises au fil des siècles qui ont permis d'irriguer en tous sens le continent noir. Elle montre comment, avec les marchandises, voyageaient les croyants, les représentations, les systèmes religieux à dos de dromadaire sur les boutres arabo-musulmans de la côte est comme sur les navires portugais puis hollandais venus chercher l'or et les esclaves sur la côte ouest. Aujourd'hui donc, regard sur cette histoire très dynamique de l'Afrique à travers les routes du livre avec un grand L et de la foi. Nous sommes en compagnie de Gaël Beaujean. Bonsoir. Alors vous êtes l'une des co-commissaires de cette exposition. Donc avec vous, on va parler des objets qui jalonnent cette histoire, ce transit en quelque sorte des croyances à travers l'Afrique.
Oui, tout à fait. Alors, je suis également responsable de collection Afrique au musée du Quai Branly. Il se trouve qu'effectivement, l'essentiel de notre collection en ce qui concerne les religions relève plutôt de ce qu'on a appelé avec Catherine Kokrividrovitch des religions du terroir. Il faut reconnaître que les religions du livre sont très peu montrées dans nos musées d'art ou de civilisation extra-européenne ou d'art extra-européen. Et à travers cette exposition, on a dû creuser cet aspect-là, le judaïsme, la religion chrétienne et l'islam.
Alors on va justement faire un petit parcours avant d'arriver à l'islam qui va être surtout notre thème aujourd'hui. On va parler un petit peu de ces religions qui ont pénétré l'Afrique de l'extérieur avant l'islam. Et je salue d'abord Jean-Louis Triot, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes un grand historien spécialiste notamment de l'Afrique de l'Ouest, mais le fil conducteur de vos recherches, ça a été justement cette pénétration de l'islam en Afrique au fil des siècles.
Oui, effectivement, c'est ça qui m'a intéressé, les modes de pénétration, jusqu'à l'époque la plus récente d'ailleurs. Et il y a une espèce de longue durée, et c'est la longue durée qui est intéressante dans ce phénomène-là.
Et puis c'est aussi la spécificité de l'islam africain. J'espère qu'on aura le temps d'en dire un mot, notamment pour éloigner certaines idées reçues aujourd'hui. Alors peut-être avant qu'on parle de ces routes de l'islam, parlons donc de ce continent avec ses religions. Vous disiez les religions quoi? Du terroir?
Du terroir.
Enfin, on va dire en gros les religions animistes quoi.
Animistes, ça c'est un thème et un terme qui est parfois remise en question. Et justement, l'anthropologue Philippe Descola a aussi l'utilise hein, lui-même, mais relativise selon les positionnements, la géographie des cultures. Donc, du terroir, à la limite, c'est plus neutre.
On s'engage moins.
Voilà, et puis il y a aussi une histoire de la circulation de ces religions à travers le temps. Donc, Bon, c'est les religions africaines avec, je dirais, des institutions communes comme celle du culte des ancêtres ou la transmission de l'histoire religieuse et de l'histoire tout court dans des cercles initiatiques, la question de la divination, de la magie, qui font appel à l'au-delà, au monde invisible. Donc voilà, c'est, je dirais, les grandes institutions schématiquement. Et les religions du livre qui se superposent. Hein, qui
Alors, le judaïsme, pas... justement, arrive vers quelle époque ?
Alors, le judaïsme est lié au mythe de l'histoire. D'après ce que. Enfin, on a eu une petite discussion avec Jean-Louis Triot à ce sujet. Je pense qu'on va la partager ici. Pour moi, c'était évident. C'est lié à la reine de Saba, alors, qui serait du côté africain, éthiopienne, du côté arabe. Yéménite, qui va partir avec tout un tas de richesses et rencontrer le roi Salomon, dont elle va tomber éperdument amoureuse.
Et réciproquement.
Et de leur union née Ménélique, qui part... alors, on est au Xe siècle avant notre ère, qui part vers l'Éthiopie avec les tables de la loi et les camoufles, et ensuite donc s'installe avec Ménélique, qui a évidemment construit son entité politique en Éthiopie, va convertir en fait ses sujets au judaïsme.
Et ça laisse une communauté importante, Jean-Louis Triot, donc en Éthiopie, qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui.
Pour moi, c'est un peu une belle histoire qui a justifié les prétentions de la dynastie salomonide lorsqu'elle s'est installée au pouvoir en Éthiopie. C'est une belle histoire qui a eu un succès considérable, qui est un marqueur identitaire chez les chrétiens d'Éthiopie. Et chez ces chrétiens d'Éthiopie, il y a toujours eu une tendance, enfin depuis longtemps, une tendance judaïsante. Donc ce lien avec la Terre Sainte est quelque chose de très fort. Maintenant, entre la légende et l'histoire, j'avoue que là, je m'en remettrai peut-être aux spécialistes de l'Éthiopie. Les quelques fois où je les ai entendus discuter, c'est vrai que il y a là la conjonction entre légende et histoire, et que c'est ça qui est intéressant pour l'historien. Pas forcément de dire ça a eu lieu, mais comment se fait-il que des gens ont cru à ça et ont construit un système de pensée à partir de ça ?
Alors ça se circonscrit au nord-est de l'Afrique.
Non. Pour le judaïsme, en fait, donc c'est le démarrage, enfin les premiers convertis sont en Éthiopie, mais au fil du temps, et là ça va rejoindre aussi l'une des grandes spécialités de Jean-Louis Triot, Léon l'Africain mentionne la présence de juifs à Tombouctou, et si plus on avance dans le temps, plus on remarque que certains lignages, on va dire, notamment aujourd'hui, alors je crois qu'il y a un phénomène de mode,
on a reçu d'ailleurs à ce même micro Judith Bruder, qui a fait toute une étude sur ces communautés judaïques à travers l'Afrique.
Voilà, et qui se revendique comme faisant partie des 10 tribus perdues. Pardon, je laisse la parole à Jean-Luc.
Ah non, mais on est tout à fait... je ne suis pas détenteur de la vérité. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un certain nombre de juifs en Afrique du Nord, au Maghreb actuel, de longue date. Le débat qui a lieu, et qui a lieu encore en Israël et ailleurs, c'est est-ce qu'il s'agit de convertis ou est-ce qu'il s'agit de juifs venus de Palestine ? Bon, peu importe ce débat, il y avait ainsi un certain nombre de communautés juives, et ces juifs ont joué un rôle important dans le commerce transsaharien. Ils étaient notamment installés dans cette grande oasis du sud algérien qui est le Touat. Et donc, on a effectivement des communautés juives implantées dans différents points du Maghreb, et notamment sur les routes de commerce. Ambrenta sayma.
Voilà, on se trouve au Kenya avec ce chant de circoncision. Alors maintenant, on va voir comment l'islam, qui va s'étendre à travers l'Afrique, évidemment, sur des surfaces beaucoup plus importantes que ce premier christianisme et ce judaïsme, comment l'islam, petit à petit, à travers les réseaux marchands, gagne donc des adeptes. Et ça commence comment, Jean-Louis Trillot? Ça commence plutôt donc par l'Est, donc par le lien avec l'Arabie.
Oui, ça commence par le lien avec l'Arabie, mais ça, la tradition musulmane célèbre un bon roi chrétien qui était un roi d'Éthiopie qui aurait accueilli les premiers musulmans, un petit groupe de musulmans chassés de la Mecque, qui s'étaient réfugiés en traversant la mer Rouge du côté du royaume chrétien, donc d'Aksum, ancêtre de l'Éthiopie. Donc il y avait un lien des deux côtés de la mer Rouge qui est ancien. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que il y a deux voies d'accès. Il y a une espèce de dissymétrie dans le continent africain. D'un côté, l'océan Atlantique qui était ignoré, qui était vide jusqu'au voyage des grandes découvertes. Et de l'autre côté, l'océan Indien qui, lui, était fréquenté depuis l'Antiquité.
Oui, puisque la côte ouest, les Africains ne sont pas navigateurs.
Ils ne sont pas navigateurs et il n'y avait pas de navigation le long de ces côtes. Alors que du côté de l'océan Indien, c'était un océan, dès l'Antiquité, extrêmement fréquenté. Donc il y a eu une ligne de diffusion le long de la côte orientale d'Afrique.
Très tôt,
de commerçants musulmans, arabes, persans, bon. Et puis de l'autre côté, il y a eu les effets de la conquête arabe. La conquête arabe aux musulmanes n'a jamais conquis le sud du Sahara, mais par contre, elle a conquis le Maghreb, elle est passée de là en Espagne. Et puis, il y a eu quelques tentatives militaires vers le sud du Sahara, mais extrêmement limitées, une ou deux expéditions. Donc, à partir de là, il y a eu l'implantation des musulmans au nord du continent, au Maghreb, et c'est le Maghreb qui a servi de plaque de diffusion ensuite pour les commerçants arabes et berbères qui sont allés au sud du Sahara.
Alors quel est le timing donc de cette diffusion de l'islam?
Je dirais 9e siècle sur la côte orientale d'Afrique, on a des témoignages assez substantiels à partir du 9e siècle, et les premiers contacts du côté ouest sont à compter aussi du, mais on peut dire du 8e siècle.
Très tôt.
Ça ne veut pas dire que tout le monde s'islamise, loin de là. Ça veut dire simplement qu'il y a quelques musulmans qui sont présents aux extrémités du Sahara d'une part et de la côte d'Afrique orientale de l'autre.
Alors ça se passe comment? C'est pas une conversion autoritaire en fait. Quel est le levier, quel est le vecteur de la persuasion pour l'adhésion à l'islam de beaucoup d'Africains?
Vous savez, des études ont été faites, que ce soit en Iran ou au Maghreb. La conversion a parfois mis un ou deux siècles, ou en Égypte, avant de se faire. La conquête arabe est une conquête politique et militaire. Il n'y a pas d'objectif religieux immédiat. Hein. Simplement, la différence statutaire entre les musulmans, qui sont l'élite, qui tiennent le haut du pavé, et les autres, qui sont tenus par un impôt spécial, fait que, progressivement, ces pouvoirs musulmans s'installant, eh bien, les conversions se font.
Promotion sociale.
Promotion sociale, voilà. Et en ce qui concerne le sud du Sahara, c'est lent, c'est long. J'ai parlé du 8e siècle pour les premiers contacts, mais les premières grandes conversions dont on est le témoignage, c'est pas avant le 11e siècle. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de programme de prosélytisme. Bien sûr, on est content de convertir, mais c'est pas l'objectif. Et l'objectif en particulier, le long de la côte orientale ou en Afrique ou à travers le Sahara, c'est faire des affaires. C'est-à-dire de l'or, des esclaves, de l'ivoire, sur les principales marchandises et puis quelques autres.
Alors témoin dans l'exposition, donc un certain nombre d'objets, Gaël Beaujean, qui relate ce contact qui s'assortit parfois d'une conversion.
Tout à fait. Alors nous avons dans la partie consacrée aux routes et aux moyens de transport un atlas arabe du Xe siècle, avec notamment, alors on sait que les Arabes au XIe, XIIe ont identifié en fait le sud du Sahara, et alors déjà Kanem-Bornou plutôt du côté du Tchad, et ensuite l'empire de Ouagadou. Donc là on est plutôt vers la Mauritanie, le Sénégal.
Alors les objets témoins de ça, qu'est-ce que c'est dans...
Alors là c'est un atlas, c'est prêté par la BNF. Dans les villes, nous avons un manuscrit de Tombouctou.
Ces fameux manuscrits si menacés, encore aujourd'hui.
Tout à fait. Donc là, il s'agit aussi d'un prêt de la BNF, puisqu'ils ont une série de manuscrits, dont un d'Ahmad Baba, du XVIe siècle. Et quand nous arrivons dans la partie sur les routes commerciales, on a notamment une plaque de sel qui vient du Sahara, qui était une monnaie importante, puisque Jean-Louis Trillot parlait de l'or, les esclaves, l'ivoire qui était recherché, et en échange, arrivaient des perles arabes ou du sel qui venait des salines maîtrisées par les Berbères. Ces objets, ces contacts, on les a également sur...
Il y a des Corans aussi dans l'exposition.
Bien sûr, il y a des Corans. Donc, on a tout un ensemble d'objets sur l'islam africain.
Très beau, d'ailleurs, sous des couvertures de cuir, en sens que ce sont des objets vénérés.
Tout à fait. Alors là, c'est là qu'on peut avoir justement un petit mélange entre les religions du terroir et l'islam. Notamment, donc, premier exemple, les amulettes du Sénégal. Donc, qui sont des objets de protection avec des sourates du Coran qui sont cousues à l'intérieur de ces petites amulettes en cuir.
Oui, c'est ça, on mélange la magie et le Coran. Hein.
On a par exemple un manuscrit arabico-malgache où il est question de divination. Nous avons encore...
Donc c'est un peu, Jean-Louis Trillot, c'est un peu syncrétique finalement cet islam africain dès le départ.
Oui et non. Oui et non, parce que c'est le texte sacré qui est utilisé pour ces amulettes. Ce n'est pas, des objets ordinaires. Dans les religions traditionnelles africaines, c'est de la chair d'un animal, c'est une plante, c'est des vestiges humains aussi. Là, ce sont des versets du Coran. Donc il y a bien sûr la magie, mais la magie et les religions du livre la pratiquent depuis longtemps. La Kabbale juive est là depuis longtemps. Donc ne surestimons pas le caractère syncrétique de la chose. Vous voyez, il y a une demande thérapeutique, mais l'islam y répond par le texte sacré.
France Culture, tout un monde, Marie-Hélène Fraissé.
Ce soir, dans tout un monde, les routes du livre et de la foi en Afrique, autour de l'exposition présentée au musée du Quai Branly, l'Afrique des routes. Et nous sommes en compagnie de la commissaire de l'exposition, responsable des collections d'Afrique au musée du Quai Branly, Gaëlle Beaujean, et de l'historien Jean-Louis Trillot. Alors, on a parlé donc de cette conversion douce, en quelque sorte, qui était une conversion volontaire à l'islam et qui représentait une promotion sociale pour ceux qui embrassaient l'islam. Qu'en est-il aussi de l'islam qui est véhiculé à travers l'Afrique, puisqu'on connaît la très grande importance aujourd'hui des confréries, donc de cet islam soufi, confréries qui accueillent des pratiques très ouvertes et souvent exubérantes. Alors quel type d'islam s'est surtout répandu ?
Alors avec les confréries, on saute plusieurs siècles. Les confréries n'apparaissent au sud du Sahara que vers le XVIIIe siècle. Donc elles sont pas là au début. Ce qu'on a au début, ce sont des marchands, bon, qui connaissent leur foi, mais sans plus, qui ne sont pas des missionnaires organisés, simplement qui ont des règles de vie, les cinq prières, un ensemble de valeurs, des versets du Coran, et en s'installant dans un village ou dans une ville au sud du Sahara, ils ont besoin d'interlocuteurs locaux, de courtiers. Bon, ces courtiers à leur école adoptent leur mode de vie et c'est ainsi que ça peut se faire de proche en proche. Ça, c'est une des formes de conversion. L'autre forme, c'est que ces marchands apportent des marchandises rares. Comme le disait Gaël Beaujean, il y avait le sel saharien qui était très recherché. On ne peut pas vivre sans sel, donc c'était une marchandise vitale. Et puis, il y avait des chevaux qui ne vivait pas très longtemps au sud du Sahara, mais qui servait aux aristocraties guerrières. Il y avait de la verroterie, il y avait des métaux, des objets en métal. Tout ça intéressait les aristocrates locaux, pour faire simple, les chefs locaux, qui donc ont senti qu'il y avait dans cette religion dont ces marchands étaient porteurs une puissance particulière et puis un intérêt économique. Et c'est ainsi que, dans les cours royales, vers le XIe siècle, on a des conversions.
Donc les royaumes africains ont commencé à se structurer autour de ces échanges commerciaux et on peut imaginer qu'il y a eu aussi le fait des mariages.
Oui. D'abord, les royaumes africains préexistaient. Ils étaient déjà là.
Mais ils ont été modifiés par ces flux commerciaux.
Ils les ont intégrés. Les Américains, le couple McIntosh, a fait des fouilles tout à fait remarquables dans la boucle du Niger, sur le site de Diéné, en montrant que plusieurs siècles avant l'arrivée de l'islam, il y avait une ville extrêmement active, une ville qui avait des canaux de commerce vers le sud de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça s'est branché tout ça, si vous me permettez l'expression. Alors, à partir de là, c'est sûr que la puissance de feu, j'entends par là la richesse des marchandises apportées par les marchands du Nord, a fait pencher la balance de leur côté. Il y a ces réseaux s'étant mis en communication les uns avec les autres, se sont islamisés, et les marchands descendant vers le sud ont été des marchands musulmans. Bon, les mariages, oui, bien sûr, mariages, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Ce type de mariage entre un musulman et une non-musulmane peut se traduire par des conversions, toute la famille devient musulmane et ainsi de suite.
Et ça va former cet islam africain. On peut dire que l'islam s'africanise l'Afrique s'islamise. Et ça donne un résultat très spécifique d'une religion coutumière, quotidienne, souvent très conviviale.
Non, je vous suis tout à fait, vous avez raison. En même temps, c'est difficile à juger et à jauger. Aujourd'hui, un certain nombre d'Africains subsahariens, considérant les évolutions dans le monde arabo-musulman, disent « les bons musulmans, les vrais musulmans, c'est nous ». C'est nous qui sommes restés fidèles au texte, c'est nous qui avons gardé les valeurs. Nous ne sommes pas des dérives islamistes et autres. C'est nous les véritables porteurs de l'islam. Et donc, l'islam, il est devenu africain, bien sûr. C'est Empateba qui a employé une belle image qui est bien connue. L'islam, c'est comme l'eau dans les rivières qui prend la couleur des terrains qu'il traverse. Ce qui est très significatif, ça veut dire qu'il ne change pas de nature, mais il peut prendre des couleurs. Et par exemple, les mosquées n'auront pas la même forme en Afrique orientale et en Afrique occidentale. Est-ce un islam différent ? Pas vraiment. Simplement, il peut y avoir des manifestations qui ne seront pas tout à fait identiques. Il n'y a pas eu en particulier... je parle pour l'Afrique de l'Ouest, mais c'est vrai aussi pour l'Afrique de l'Est, d'hérésie de l'islam. Donc, les musulmans sont restés attachés au tronc commun sunnite, pour l'essentiel. Ce qui veut dire que cet islam, oui, il est devenu africain, mais en même temps, il n'a pas changé véritablement de nature.
Et de la foi en Afrique aujourd'hui, dans tout un monde. Alors, à quel moment cet islam, donc, qui progresse très lentement, de génération en génération à travers l'Afrique, Jean-Louis Triot, à quel moment s'arrête-t-il ? Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que c'est le nord de l'Afrique, c'est la côte ouest. Sur la côte est, il est descendu un petit peu plus bas, jusqu'à Madagascar. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça s'arrête ? Raison économique ? Raison politique ?
Il ne s'arrête pas. on a calculé, c'est difficile de calculer, mais le Mali actuel était un pays sans doute à 80% non musulman au début de la conquête coloniale. Il est aujourd'hui sans doute à, 90%. Enfin, ces chiffres ne sont que des images. Donc, il ne s'est pas arrêté. Le processus a continué en Afrique de l'Ouest. Et par exemple, à une époque, on considérait que la limite de la forêt était une limite infranchissable par les musulmans et l'islam. Et c'est vrai d'ailleurs que les populations forestières n'accueillaient pas toujours de façon très aimable les commerçants musulmans, ou les musulmans tout court. Mais maintenant, avec l'arrivée de la colonisation, de la conquête coloniale, des systèmes de transport, des routes, des chemins de fer, etc., les musulmans sont descendus, Abidjan est devenu une grande ville musulmane, et ainsi de suite. Donc voilà, il ne s'est pas arrêté.
Donc effet paradoxal, l'époque coloniale aurait plutôt favorisé la diffusion de l'islam, en même temps, bien entendu, qu'elle favorisait la diffusion du christianisme.
Sans le vouloir, mais elle a joué le rôle d'accélérateur. Cela dit, il ne faudrait pas oublier que le christianisme est plus important en Afrique que l'islam aujourd'hui, qu'en Afrique subsaharienne, on peut, bon, là aussi les chiffres n'ont qu'une valeur relative, un Africain subsaharien sur 3 ou 4 est musulman, mais 2 ou 3 sur 4 sont chrétiens. Donc il faut bien voir que le nord du continent est islamisé, le sud et le centre du continent est christianisé. Sans parler des religions qui ne sont pas du livre et qui sont présentes. Donc, il y aurait de mauvais effets de perspective à vouloir trop simplifier. Voilà.
Alors, on voit bien, Gaël Beaujean, dans l'exposition actuelle, l'Afrique des routes, comme dans une exposition précédente où on voyait beaucoup de ces crucifix très africains, cette capacité qu'a l'Afrique à hybrider, à mélanger, à englober, en quelque sorte.
Alors, l'exposition dont vous parlez a lieu jusqu'au 4 avril. Il s'agit de Christ Congo, dont s'appelle du Jourdain au Congo. Et justement, c'est en fait, il faut savoir que le royaume du Congo et le roi du Congo a été converti en 1491 par les missionnaires portugais, à l'époque où les Portugais commençaient à s'installer ou à installer des forts commerciaux sur la côte. En fait, autour de ces objets, ce qui est central, c'est d'abord l'artiste. Ça va être le forgeron, ça va être le sculpteur. Donc le sculpteur, quelle que soit la situation, il va livrer sa créativité en fonction d'une commande. Donc le commanditaire peut être autant un chef politique, un roi, qu'un responsable religieux, ou qu'un adepte, ou qu'une personne croyante. Donc, dans les Christ Congo, on va retrouver une iconographie assez fidèle, en fait, au crucifix qu'on va trouver en Europe, avec une dominante en termes de matériaux de cuivre, puisque c'est une région où il y a des mines de cuivre, et une tendance à frotter les différents personnages qui patinent, en fait. Donc ça, c'est les crucifix à partir du 15e, 16e siècle. Ensuite, ça change, tout comme pour l'islam.
Merci à tous les deux. Quelques très beaux objets donc à voir dans cette exposition L'Afrique des routes, et des objets qui parlent véritablement. À lire également le catalogue, très beau et très accessible pour un public qui n'est pas forcément initié à cette histoire africaine. L'Afrique des routes, donc, publié chez Actes Sud. Et puis à lire également, Jean-Louis Triot, vos derniers opus, enfin des ouvrages que vous avez dirigés, qui justement plaident pour montrer que cet islam africain reste ouvert. Et c'est la série Islam et société au sud du Sahara, publiée aux Indes Savantes. Le dernier, c'est Sous l'enseigne du chameau, et le précédent, dans un Sahel musulman ordinaire. Voilà, ainsi se termine Tout un monde, le magazine des cultures. À la prise de son, Emmanuel Armin, à la réalisation, Vanessa Nadjar. Tout un monde, chaque samedi, avec la collaboration de Claude Armand de Castio, vous est proposé par Marie-Hélène Fraissé. N'oubliez pas de consulter notre page Tout un monde sur le site France Culture. Sur France Culture, on vous attend, Vincent Charpentier. Bonsoir Vincent. Salim, you have a window. People are keeping back in mind.
Mando